La semaine dernière, on a parlé de Shaoul. Donc on a dit qu'on a fini avec Shmuel, que Shmuel maintenant, ils lui ont demandé à Shmuel, comme il voyait que Shmuel il commence à vieillir, donc ils ont demandé, on veut un roi. Mais pas un roi, on veut un roi comme les Goïms, comme les autres nations. C'est ça le problème. Donc Hachem, on a raconté qu'Hachem, il était énervé, il a dit en fait, ils veulent pas se rebeller contre toi, Shmuel, ils veulent se rebeller sur moi. C'est-à-dire que quelque part, de vouloir un roi, c'est quelque part effacer Hachem, quoi. C'est-à-dire, Hachem, toi, tu es bien où tu te trouves, et nous, on veut quelqu'un qui nous gère. Donc, quelque part, on n'a plus besoin d'avoir un contact avec les... Comme en Égypte, par exemple, on sait qu'en Mitzrayim, il y a écrit « Kegan Hachem ». Mitzrayim, sa beauté, c'était que tout, ils n'avaient rien besoin, ils n'avaient pas besoin de prière. Parce que, pourquoi on a besoin de prier? Pour la pluie? Eux, ils avaient le Nilus. Ils avaient l'eau, ils avaient tout. Et ce qu'ils n'arrivaient pas en Égypte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la magie, et grâce à la magie, ils arrivaient à faire des choses magnifiques, ils arrivaient à créer. Dès qu'ils n'arrivaient pas à avoir un fantasme, ils faisaient la magie. Et cette magie-là, ils arrivaient à ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient même pas besoin de la drogue pour ça. Ok? Non, vraiment. Ce qu'ils voulaient, ils avaient. Ça, c'était en Mitzrayim. Donc, eux, les gens, toujours il y avait ce problème-là de ne pas avoir ce contact. En Israël, par exemple, sachez qu'il y en a un qui m'a dit, j'ai aimé ce matin, il y en a un qui m'a sorti ça, il m'a dit, moi, en France, j'étais un frais. Depuis que je suis arrivé en Israël, je ne suis plus frais, je suis surgelé. Alors, il me dit, c'est quoi la différence? Il me dit, en France, Hachem te donne le Shefa. Tiens, mon fils, tu vas habiter en Galoute? Tiens, je te donne plein. Mais genre, je m'occupe plus de toi, genre. Vas-y, tiens, tu as des millions. Vas-y, amuse-toi avec les millions que tu as. Gère ce que tu as envie. Mais quelque part, Hachem, il est plus avec lui. Il se débrouille tout seul. En Israël, chaque sou que tu as, c'est grâce à la prière. Ce que tu as prié, tu reçois. Tu le sens, quoi. Si tu n'as pas prié le matin, tu te prends une banane. Non, vraiment. On le voit, ça. On le vit actuellement. Bémet, en Israël, c'est la prière. On a besoin de pluie. Même pour pouvoir manger, on a besoin de prier. Pourquoi? Parce que si on a la sécheresse, il n'y a plus rien en Israël. Ce n'est pas comme l'Égypte. Donc Israël, c'est quelque chose qui est... On est soumis à Hachem, quelque part. Et puisqu'on est soumis à Hachem, donc c'est-à-dire que notre contact envers Hachem, il est 100 fois plus proche que ceux de France. Le mec, il y a un Ramban comme ça qui dit que tous les mitzvot qu'on fait en France, c'est quelque part, c'est un stage pour Israël, quoi. Les mitzvot qu'on fait en Israël, c'est quelque chose de très précieux. Donc, je reviens. Shaoul, donc Shmuel, il a choisi Shaoul, comme je pense qu'on l'a dit la semaine dernière, on a parlé de ça. Donc, ils ont choisi Shaoul. Shmuel, il rassemble tout le peuple juif. Voilà, vous avez demandé un roi, tenez un roi. Ouais, bon, au début, il les avait avertis. Vous voulez un roi, mais vous allez le payer cher. Chaque fois, vous allez payer. Donc il a dit, voilà, le roi il est là, on va vous le présenter. Ils appellent au micro Shaoul, personne ne répond. Ils demandent au Rim Vetoumim, où est Shaoul? Bien sûr, il s'est caché, il était tellement modeste. Il s'est caché, ils l'ont sorti, un beau gosse comme ça. Ouais. Et il arrive, et il dit, voilà, c'est lui le roi. Bien sûr, dans chaque fois qu'il y a un groupe, il y a toujours les grognons, ceux qui ne sont pas contents, ouais, ceux qui grognent toujours, comme dans les synagogues. Il y a les gens qui sont toujours de bonne humeur. Et il y a toujours les râleurs. Chaque chose, ils attendent l'occasion pour aller sur le rabbin, sur le chazan, sur la communauté. Ils ne supportent pas. Ils sont toujours là en mode râlerie. Donc, les râleurs, ils ont dit, c'est qui ce type-là qui nous a mis? C'est qui il ne sait même pas gérer. Tu vois la tête qu'il a? Et après, la semaine prochaine, on expliquera. Je vais expliquer comment c'est possible que le premier roi qu'on a nommé, c'était de Binyamin. Logiquement, la royauté, comme on va voir dans la paracha, c'est Yehuda. Donc ça, on a dit qu'on va parler, ça, c'est un shiur complet, magnifique. Pourquoi Bémet, on a besoin de passer par Yosef avant de Binyamin, Yosef et Binyamin avant Yehuda. Mais dès que ça commence à Yehuda, après le film ne se perd plus. Donc Shaoul il dit aux gens, ne vous inquiétez pas, on sait qu'il y a des râleurs, on va faire une petite guerre là, ils vont comprendre qui je suis. Et voilà qu'il y avait un roi qui s'appelait Nahash, comme le serpent, Nahash, Il était du peuple de Hamon. Il voulait, il embêtait les gens de Gilad. Il leur avait dit, voilà, on va faire un pacte. Je sais pas si vous l'avez dit la semaine dernière. Il leur a dit comme ça, regardez. Les Juifs, ils ont vu que ils étaient très, ces gens-là de Hamon, ce Nahash a été très fort. Ils ont dit, ils sont écrasés. Ils ont dit, regarde, on est prêt à être ton serviteur. Juste, laisse-nous tranquille. Dans ce Nahash-là, il était riche, il était fort, il avait tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas besoin des Juifs. Et si vous voulez vous joindre à nous, je veux que tous les gens du quartier, tous les gens de la ville, on lui crève un œil. Un œil. Alors, ils ne savaient pas quoi faire, quoi. Ils n'avaient pas le choix. Ou bien se faire tuer, ou bien un œil. Qu'est-ce que tu préfères? Loyalez-nous. Il n'y avait pas des rusies avant que pour nous défendre, tu vois. Mais ce que je dis, c'est que. Donc, un œil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des lettres dans tout Israël. Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Parce que c'est où ça, où on est obligé d'accepter la condition. Shaul, il entend ça, il dit, celui, il envoie dans tout Israël, il envoie des morceaux de bêtes. Il a dit, celui qui n'écoute pas à ce que je dis de venir faire la guerre, tous ses troupeaux, ils seront coupés en morceaux. Donc les Juifs, ils vont, ils les combattent, ils les gagnent, bien sûr. Et voilà que Shaul, enfin, il prend sa place. Tout, même les râleurs, ils reconnaissent que c'est Shaul qui vient. Ça, c'est le début. Shaul, il continue maintenant. Shaul, c'est pas fini. Il a besoin de combattre maintenant les Pélishtim. Donc, il commence à combattre les Pélishtim. Mais pourquoi les Pélishtim, ils détestaient le peuple juif? Pourquoi? Déjà, parce que c'était des juifs. Mais deuxièmement, ils détestaient parce que Yonatan, c'est le fils de Shaul. On va le voir après que Yonatan, c'est le gros copain de David Améler. Ce Yonatan, qu'est-ce qu'il a fait? Yonatan, il arrive comme ça et il a tué un chef de Pélishtim. Sans rien demander, il n'a pas demandé au Rim Toumim, de lui-même, il y en a un qui lui a pris la tête, il a tué, mais personne ne lui a demandé de le tuer. Donc ça fait une grosse embrouille. Dès qu'ils ont entendu ça, les Pélishtim, ils ont dit, c'est l'occasion pour encore les défoncer, ces Juifs-là, on va les défoncer une fois pour toutes et on va finir. Donc maintenant, les Pélishtim, ils arrivent, ils ont 30 000, commandos, plus 6 000 chars. Ils avaient une grosse, ils étaient armés jusqu'aux dents. Par contre, les Juifs, ils n'avaient même pas une épée, ils avaient. Pourquoi? Parce que c'était interdit de faire passer de tout ce qui est métal et tout ça en Pélishtim. C'était interdit. C'est comme nous, on n'a pas le droit de passer la bombe atomique. Israël, elle regarde dès que les villes d'à côté, ils essayent de s'armer, ok? Israël, de suite, elle s'occupe de les désarmer. Ben aussi, nous, avant, c'était comme ça. On ne nous a pas laissé nous armer, donc on n'avait pas d'armes. Donc, maintenant, Shaul, il rassemble il demande à tous les Juifs, on n'a pas d'armes, mais ce n'est pas grave. On a la bouche. Ouais, on a la prière, la force de la prière. Et la force de la prière, c'est... On voit que Yaakov, quand il doit rencontrer son frère Esav, il veut le tuer, il se prépare trois choses. Cadeau, guerre et tfila. Ok, donc tu vois que la tfila c'est important chez les juifs. Donc ils se rassemblent tous à Gilgal. Qui se rassemblent tous? Tous les juifs, la majorité des juifs, ils sont cachés, ils sont barrés. Ils ne voulaient pas faire la guerre. Ils ont dit on va se faire défoncer, quoi. Imagine, nous on n'a pas d'armes, eux ils sont armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'on va... Il est gentil Hachem, mais c'est-à-dire ça, il ne faut pas rêver, quoi. Donc, il y en a plein. Combien ils sont venus? 3000 personnes. 3000 personnes, ils sont joints à Shaul. C'est rien, quoi. 3000 personnes contre 30 000 et 6 000 chats. Et voilà que Shaul, il leur fait une surprise. Il leur dit, voilà, maintenant qu'on est arrivé, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Gilgal. Ils disent, regardez, Rabotai, cet endroit-là, on ne peut pas commencer la guerre. On doit attendre 7 jours. Shmuel, quand il m'a oint, il m'a dit que quand je fais la guerre contre les Pélishtim, je dois l'attendre 7 jours. Et le septième jour, Shmuel, il doit arriver, il doit faire un sacrifice. Et c'est qu'après ça qu'on part en guerre. Imagine-toi les sept jours. Donc le premier jour, ça va, t'as pas peur. Tu les vois de loin, tu vois. Deuxième jour, troisième jour, tu commences à trembler. Ils arrivent comme ça. Donc d'un coup, tous les 3000, il y en a plein qui commencent à se barrer. Le septième jour, ils sont proches. Là, on entend tous les Pélishtim, ils sont là presque. Et nous, on n'a pas armé. Eux, ils sont armés. Ouais, ils ont des chars, ils ont des lances et tout ça. Le septième jour, Shaul, il ne sait plus quoi faire. Tous les gens, ils s'éparpillent. Il ne lui reste que 600 personnes des 3000. Tous, ils sont barrés, ils sont taillés. ok ? Il reste 600 000. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Shaul, il dit, regarde, on est le septième jour. J'ai attendu le septième jour, moi, il n'est pas là. Amenez-moi un sacrifice et c'est moi qui vais l'approcher le corban. Donc il lui amène le sacrifice, il approche le corban parce qu'il avait peur, Shaul, il a raison. Il dit, attends, si maintenant tout le monde part, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat. Je ne vais pas combattre tout seul. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il approche le corban. 5 minutes après qu'il a approché le corban, qui arrive ? Shmuel. Il dit, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore ? Il dit, quelle bêtise ? Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit ? Le septième jour, j'arriverai pour faire le sacrifice. Tu n'as pas attendu encore. C'était une épreuve pour toi de voir est-ce que tu allais écouter, même dans des moments super, super durs, est-ce que tu allais écouter le Hachem et le Navi. Donc c'est moi. Comme tu n'as pas écouté, déjà, première punition, c'était prévu que toi et toute ta descendance soient des rois, ça y est, c'est fini. Après toi, c'est fini. Déjà, le pauvre, Shaul, il est... Avant la guerre, il sait que sa descendance, elle n'est plus roi. Écoute, juste pour une petite bêtise. Après, ce n'est pas une bêtise, Rav Shalom, hein, parce que de dire, la Gemara dans Sanhedrin et dans Shabbat, elle dit que Shaul, il y a des gens qui disent que Shaul, il était comme un enfant de 1 an pour les fautes. C'est-à-dire, Jean, il n'a jamais fauté. Comme un enfant de 1 an. Tu te rappelles quand tu avais 1 an, tu étais un tout gentil. Naran ? Regarde ce que c'est devenu, non, je rigole. Non, un an, écoute. Il y en a un qui s'est moqué. Il y en a un qui s'est moqué, il a dit, regarde, il a 1 an comme un bébé, mais un bébé aussi qui fait des fois dans la couche, quoi. Genre, il a 1 an, mais il a fait des petits trucs comme ça. Il écrit que cet amoral qui a parlé sur Shaul, toute la nuit, ils ont montré des formes comme ça. Il a eu la trouille toute la nuit. Jusqu'à que le matin, il s'est réveillé, il a dit « Je demande pardon à Shaul » et ça s'est arrêté. Pour te dire que celui qui parle, même comme j'ai dit là maintenant, il a fait une bêtise, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on parle de Nevi'im, on parle de Shaul, de roi, et on parle pas de... Je vais juste faire une petite parenthèse parce que c'est très important d'expliquer ça. Parce que j'ai un élève qui me demande toujours ces questions-là. Il me dit « Mais attends, pourquoi t'essayes toujours d'être l'avocat de ces gens-là » Tu sais, quand j'essaye d'expliquer que même les frères de Yosef, ils n'ont pas fauté, et lui, il n'a pas fauté, et lui, il n'a pas fauté. Il me dit, pourquoi tu... Et Shlomo aussi, il n'a pas fauté. Et Shimon, il avait des femmes. Shimshon, il avait des femmes, il n'a pas fauté. Vous vous rappelez ? Sitra, Hara. Il me dit, pourquoi tu essayes d'être son avocat ? Il a fauté, c'est un homme comme tout le monde. Tous les hommes, ils fautent. OK, il aimait les femmes, mais à côté de ça, il a fait des choses. Alors ça, c'est une faute. C'est une grave faute de dire ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle Yeridat Adorot. C'est la base de toutes les bases. C'est qu'il y a une Yeridat Adorot, c'est-à-dire qu'il y a une chute de génération, une chute de niveau. Quand je vous dis que moi, par exemple, moi j'ai 40 ans, ouais, et je te dis que ça fait 25 ans de ça, donc ça fait 25 ans de ça, ça fait 20 ans, j'étais à la Yeshiva, ok, j'étais à Kol Torah. Et j'ai connu des grands rabbinim, vraiment. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, il n'y en a plus des comme ça. Il n'y a plus des rabbinim comme ça. Il n'y a plus. C'est-à-dire des rabbinim, des géants. Et quand tu parles de ce que tu as vécu avant, les gens ne te comprennent même pas, quoi. Pas que moi, tu vois, mais je t'explique comment c'était avant. Et même maintenant, dans ces générations-là, maintenant, si je te dis quelque chose, que ce qu'il fait ce rave, ouais, par exemple, je te dis, il y a un rave, jamais... Il y a un rave que je connais, il a dit jamais, même quand il va aux toilettes, il regarde jamais sa mila. Jamais il regarde son endroit au milieu. Alors ils ont dit, pourquoi tu ne regardes pas ça? Il dit, dans la Gemara, on voit que Rabbi Antoninos, la Gemara dans Avodah Zara, elle raconte que Rabbi Antoninos, Rabbi c'était celui qui a fait la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, et il avait sa charouta, c'était un grand roi qui s'appelait Antoninos. Et ce roi-là, il étudiait... Il n'avait pas le droit, c'était un goy, c'était un non-juif, donc il n'avait pas le droit en tant que roi d'aller étudier avec un rabbin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un souterrain, depuis le château, depuis son palais jusqu'à la maison de Rabbi, et comme il avait toujours besoin d'être accompagné par des gardes-corps, à l'aller il tuait un, et au retour il tuait un autre. Comme ça, jamais personne ne savait où il allait, qu'il y avait un souterrain. Et voilà que ce Rabbi-là, ils étudient ensemble et tout, vraiment. Un jour, il a décidé, selon juif, de se convertir. Ouais, il s'est converti. Et quand il a fait la Mila, il a dit à Rabbi, regarde, j'ai fait la Mila, c'est pas honteux. Genre, regarde comment je l'ai bien fait la mila. Ma circoncision, comment je l'ai bien fait. Rabbi, il a dit, mais tu te moques de moi? Moi, j'ai jamais vu la mienne, j'aurais de la tienne. Non, pour te dire. Alors, ce rave-là, maintenant, dans notre génération, il ne regarde pas, son endroit. C'est-à-dire que toujours, il met un papier ou il met un drap pour ne pas regarder sa mila. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? On voit, il y a un Al-Shir. Le Al-Shir, il explique dans la parasha de Noir, il y a écrit que les enfants de Noir, il y en a un, Shem, Ham, Veyafet. Ham, il a vu son père tout nu, il a rigolé, il a dit vite à ses deux frères. Ses deux frères, ils ont fait, ils ont pris un drap, ils ont marché à reculons. Ils ont dit, pourquoi tu fais Shra, tu marches à reculons? Marche en avant et tu fermes les yeux, Mabaya. Il dit le Al-Shir, un grand chidouche, il dit que même en fermant les yeux, des fois, tu peux, tes yeux y voient. Même si toi, tu ne vois pas, mais tes yeux y voient. C'est un grand chidouche. Dire, bon, on n'est pas assez d'argal, là, et nous, on parle. Mais eux, même ça, même la vision de leur propre corps, ils font attention à ça. Vous allez me dire, mais lui, c'est un... J'ai parlé à un autre avraire qui est aussi bon dans l'imoud. Il m'a dit, mais c'est impossible ce qu'il fait. C'est même lui, entre les deux religieux, ils ne se comprennent pas. Pour te dire que même dans la même génération, il y a des fois qu'on ne se comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors imagine-toi, ça fait 100 ans, au temps du Rav Etzraïm, au temps du Chazon Ish, ouais, au temps du Gaon de Vilna. Ces années-là, c'est pas comparable ce qu'ils étaient. C'était des géants, des géants, des géants. Ils faisaient des choses qu'on ne peut pas comprendre. Même leur niveau... On voit par exemple dans la Gemara, un Amora, il ne peut pas discuter sur un Tana. Okay, le Tana, c'est au temps de la Mishnah, et Tanaïm. Et après, dans le temps de la Gemara, du Talmud, c'est quoi? C'est des Amoraïm. Maintenant, des fois, la Gemara dit, Lima qui est Tanaï, peut-être qu'on va dire que c'est Amoraïm. Ce qu'ils ont dit, c'était déjà une discussion que les Tanaïm ont discuté. Et alors, je t'embête. Ils ont déjà discuté. Et l'autre, il est. Moi, je discute sur lui. Ouais, ou bien des fois on dit, l'amora, comment tu peux discuter, mais ce Tana il dit le contraire, il n'y a pas de preuves. Alors moi j'ai étudié la Sugya et je discute sur ce Tana. Non, parce que la différence de génération, on voit le Rajba par exemple, même 100 ans avant, il parle du riz, dans le Tosfot, là, quand il parle de Tosfot, le Rajba, c'est un Rishon, et le Tosfot c'est un Rishon, il dit, riz au rakacha, je ne peux pas discuter sur lui. Pour te dire que chaque fois qu'il y a une chute de génération, il y a une baisse une baisse. Il y a le corps. C'est comme dans le corps. Il y a un moment où la génération, on était dans le cerveau. Après, c'est descendu au cœur. Après, au foie. Et maintenant, on se trouve dans le talon. On est dans le talon. Le talon, c'est presque... C'est pas sensible. Bien que c'est sensible, ouais, le talon. Mais c'est-à-dire que le talon, c'est tout en bas par rapport à la tête. C'est le plus bas, le talon. On se trouve dans le talon de... Le Mashiach, il arrive au dodo. On est à la fin des temps, c'est sûr, là. C'est pas qu'on parle de Mashiach, pas Mashiach. On est dans 200... Combien il reste de temps? Qui sait?
227,
il reste...
228.
Alors, combien?
122.
Alors, 222. C'est-à-dire que le Mashiach, il peut venir... Le Mashiach, il peut venir à chaque instant. Il peut venir à chaque instant, mais il a un temps limite. C'est-à-dire que s'il ne vient pas, le temps, Hachem, il écrit dans Avodah Zara, au début d'Avodah Zara, il écrit que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le monde pour 6000 ans. Toujours c'est 6, et la 7e année, c'est Shabbatique. Donc le monde, il est maximum, on est à 6000 ans de temps. Okay, il n'y a pas plus. Donc là, maintenant, on arrive à la fin des temps, c'est sûr. On est dans les temps messianiques, ça c'est écrit. Parce qu'il y a 2000 ans de néant, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique. Donc on est dans les temps messianiques, ça y est, on est là, on est à la fin. J'avais écouté une fois un machal, tu sais, il y avait quelqu'un qui faisait un... Vous savez, ceux qui ont des piscines, il y a un filtre pour filtrer la piscine. Bon, c'est pas comme ça maintenant, mais imagine maintenant, le filtre, il commence à filtrer tout l'eau. Imagine qu'il amène dans un autre bassin l'eau. Donc maintenant, à la fin... Qu'est-ce qui reste dans la piscine quand le bassin il est vide? Tous les feuilles, tous les saletés. Alors le type, le propriétaire, il arrive, il voit sa piscine comme ça, il dit « Mais c'est comme ça que tu m'as filtré la piscine? Regarde, le bassin est tout sale. » C'est une espèce de zahmar. L'eau qui est propre, qui a été filtrée, elle est dans l'autre bassin. Maintenant, on va nettoyer tous les feuilles. Quand on nettoie les feuilles, on ouvre, on envoie tout l'eau et la piscine, elle va être limpide. Ouais. Là, on se trouve. Donc, si maintenant, dans nos temps, maintenant, on voit que c'est tout est sale, il y a la drogue, ouais, il y a les femmes, il y a beaucoup de. Il y a l'argent. Ouais, trois choses. Drogue, femme, argent. C'est les grosses lignes de maintenant. C'est ça, en fait. C'est l'argent principal, la drogue pour faire de l'argent. Et les femmes aussi, c'est en rapport avec l'argent. Quand on vend une voiture, on met une femme à côté. Je vais acheter une voiture, je vais acheter une femme, non ? Qu'est-ce qu'on me met une voiture ? Qu'est-ce qu'on me met une femme à côté de la voiture ? La femme, ouais ? Toujours Rav Shapira, il disait ça. Il disait, Makesha, on met une femme. Parce que la femme, c'est ça, là. Avant, il mettait une idole, peut-être, devant une voiture. Ouais, c'était la Avodah Zara. Maintenant, il te met une femme. Parce que c'est ça, maintenant. On est dans le temps, la fin des temps. Et c'est la fin de temps, elle demande. Quand on voit plein de saletés, on dit, mais comment c'est possible ? Les temps d'avant, ils n'avaient pas de ces saletés-là. Mais vous n'avez rien compris. Ces saletés, c'est comme ce que j'ai dit, c'est le bassin qui est sale, il faut juste le nettoyer. Et tout le travail, il est déjà fait, parce que les 6000 ans de travail, tout le propre, il est déjà dans le monde futur, il est déjà prêt. Et dès qu'on finit de nettoyer, on nettoie et on remet tout le propre. Donc en fait, quelque part, les saletés qu'on voit maintenant, c'est tous les déchets, toutes les saletés qu'on a en fait. C'est un peu tous les 6000 ans qu'on prend chez nous, quoi. Ouais. C'est comme par exemple une personne, elle fait un balai, elle balaye chez lui à la maison, et il y a un tas de saleté à la maison. Donc, quand il balaye de tous les coins, après il laisse un petit tas comme ça, et après il prend la pelle et jette à la poubelle. Vous savez balayer, vous avez déjà balayé ? Une personne qui arrive et dit, et il voit ce tas là de saleté, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, regarde, tu m'as pas balayé, c'est tout sale. Mais non, c'est sale. Il n'y a que ce côté qui est sale, mais je t'ai nettoyé toute la maison. Toute la maison, elle se trouve maintenant dans un coin. C'est bien dur que ça. Maintenant, on est dans un temps. Toutes les saletés, en fait, c'est tout le travail et les déchets de toutes les années qui sont passées, de générations. Donc, Bekitsu, il faut attaquer maintenant. Donc, on revient maintenant. On attaque. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Première bêtise que Shaul. Encore une fois, quand je dis bêtise, c'est absurde de dire bêtise. Parce que Shaul, encore une fois, c'était un. Il était encore, on dit qu'il était plus grand que David Améler, Shaul. Donc Shaul, il a déjà perdu, à ce moment-là, il a perdu la dynastie de la royauté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Shmuel, il dit, bon, allez faire la guerre, si vous voulez. Maintenant, comme Jonathan, il se sentit un peu morveux, parce que c'est lui qui a tué le chef des Pélishim, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à son petit serviteur, il dit, c'est d'accord de venir avec moi ? Il a trouvé Mina Shama, ils ont trouvé deux épées. Il dit, c'est d'accord de venir avec moi chez les Pélishtim ? De toute façon, si Hachem veut nous faire gagner, même si on est deux, on peut gagner. Imagine, dans 30 000 personnes. Jonathan, il descend là, sans dire à personne, sans dire à son père. Et donc il reste 600 personnes. Lui, il se bat avec son serviteur, il descend la montagne. Et voilà qu'il descend une autre montagne comme ça, les Pélishtim, ils sont en haut. OK ? Et il se fait voir. Il dit à son serviteur avant, voilà le code. S'ils vont dire, on descend vers eux, ça veut dire qu'on est mort. Hachem, il veut tuer le peuple juif. S'ils nous demandent à nous de monter vers eux, ça veut dire que c'est bon, c'est un signe qu'on a gagné. Donc ils descendent comme ça les deux personnes. Il y avait un groupe de 20 personnes, de 20 d'un côté, de 20 Pélishtim. C'était bien un commando de 20 comme ça. Ils entendent, ils ont dit, venez vers nous. Hé, venez les phages, venez vers nous. Alors, dessus, Jonathan était content, il dit, ça, c'est un signe qu'on va gagner. Ils arrivent, ils commencent à monter comme ça. Ils auraient pu leur lancer des lances et c'était fini. Ils ont réussi à monter et il y a eu un S, ils sont restés un peu figés, les Pélishtim. Ils ont tué les 20 comme ça, d'un coup, tac, 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 ils ont tué 20 personnes. Quand les Pélishtim, ils ont vu ça, que deux personnes, ils arrivent à tuer 20, ils ont commencé à stresser. Ils ont commencé un peu à se sauver de partout. Balagan, ils sont entretués tout le monde. Ouais, ils sont entretués. Quand maintenant Shaul il entend le balagan, imagine le balagan, c'était pas loin. Shaul maintenant il dit c'est qui du camp qui s'est sauvé ? Ils ont commencé à chercher, ils ont remarqué que c'était Jonathan qui était parti. Ils ont compris que c'était Jonathan qui était allé faire la guerre. Du coup, tous les gens de Shaul, les 600 personnes, ils sont allés, ils ont commencé à tuer les gens. Et maintenant, Shaul, il a dit, voilà, je fais un serment que c'est interdit de manger, de goûter quoi que ce soit, parce qu'il y avait des roseaux de miel et de sucre, c'est interdit de manger tant qu'on n'a pas fini la guerre. Et celui qui mange, il mourra. Maintenant, Jonathan, qui n'était pas là dans le groupe, il n'a pas entendu ça, Jonathan, son fils. Lui, il a goûté. Il a goûté, il a mangé, et ça lui a donné de la force d'ailleurs. Et du coup, Shaoul, il commence à tuer et tout. Après, Shaoul, il demande, il questionne, pas Urim et Tumim, il demande, il faut encore attaquer, il faut encore tuer les Pélishtim. D'un coup, Hachem, il répond plus. Il n'y a plus de répondant. Il comprend qu'il y a, quelqu'un, il y a une embrouille. Il comprend qu'il y a quelqu'un qui a péché. Il fait un tirage au sort pour voir c'est qui a fauté. Après, il restait que Yonatan et Shaoul. Il a dit, même si c'est mon fils Yonatan, je le tuerai. Parce qu'il a transgressé mon... J'ai fait un vœu et j'ai fait un serment que celui qui allait manger, avant qu'on ait fini la guerre, on le tue. S'il a mangé, tant pis, je le tue. Et c'est tombé sur Yonatan, c'est Yonatan qui a mangé. Donc, c'est à cause de ça que Hachem ne l'écoutait plus, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a transgressé le serment. Donc, Shaoul, il voulait tuer son propre fils. Tous les ministres ont dit, mais tu peux pas faire ça, c'est grâce à lui qu'on a gagné la guerre, c'est lui qui a fait tout ça. On va amener un sacrifice pour le racheter. Et voilà que ce qu'ils ont fait. Et après, du coup, Shaoul, tout s'est passé bien, ils ont continué la guerre, ils ont tué tous les légitimes. Enfin, ils ont pas tous, mais ils ont tué une bonne partie. Et c'était une guerre réussie de Shaoul et de Yonatan. Ok ? Ça, c'est la guerre qui s'est bien passée. Juste, je continue, et après, je rajoute des chidushim. Que les Bnei Israël... Bon, entre parenthèses, comme ça vous... Parce que les histoires, ça va vous endormir. Entre parenthèses, comme on avait parlé de la Sitra Chara, on parlait toujours de la force du mal. Comme j'ai dit, quand Yaakov, il est allé vers Israël, ouais, donc il fait passer ses enfants le Jourdain. Si vous avez remarqué, le Jourdain, il s'est ouvert. Trois fois, la mer... Non, plusieurs fois, elle s'est ouverte. Dans la Torah, ok, dans la Torah et dans le Nar, on voit que la mer, elle s'est ouverte quand ? À la sortie d'Égypte. Et aussi, elle s'est ouverte quand ? Après 40 ans que Yoshua il a fait rentrer l'Israël, le Jourdain il s'est ouvert. Mais avant ça, avant tout ça, elle s'est ouverte chez Yaakov. Parce que Maase Avot Siman Banim. Yaakov, il est obligé de tout tracer avant. Tous les patriarches, ils ont tracé tout ce qui allait se passer dans le futur. Lui, descendu en Égypte, Yitzhak, il va creuser trois puits. Deux puits, il va se faire remballer. Le troisième, il reste. Premier Médamidash, deuxième Médamidash, troisième. Tout, ils ont tracé les patriarches, tout le tracé de tout ce qu'on va vivre jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, la parasha Vayishlach, le Ramban, comme je l'ai dit, il dit que si tu veux regarder comment combattre les ennemis, il faut regarder cette parasha-là, elle est remplie de secrets. Donc, Yaakov, il fait traverser tous ses enfants. Et qu'est-ce qu'il revient ? Pourquoi il revient ? Parce qu'il a oublié des pachim tanim, des petites cruches. Alors, l'agma dans le Bakama, il dit, les petites cruches, ça va, frérot ? Qu'est-ce qu'il y a ? Azma, c'est des petites cruches. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi les cruches ? Ça coûte combien les cruches ? 5 euros ? T'as jamais jeté 5 euros dans ta vie ? Combien de fois t'as jeté 5 euros ? Ok, des fois on achète des trucs, après on les balance, on n'a plus les nerfs, on les balance. Pourquoi Yaakov, c'est important ? De là, l'agma à prendre à Kama, on dit Chaviv mamonam chez Israël, Chaviv mamonam chez Tzadikim, Yotam et Goufam. L'argent des Tzadikim, elle est plus chère que leur corps. Alors le Chavetz Chaim, il dit, comment on peut croire ? Alors lui, de suite, il va rigoler, il va dire, ouais, les rabbins, ils adorent l'argent. Non, non. Et il écrit dans la Gemara que les rabbins, ils préfèrent leur argent que leur corps. Alors vous allez dire, ouais, c'est vrai, les rabbins, ils aiment l'argent. Alors, Chaz Shalom, regardez comment le Chavetz Chaim, il explique ça. Il explique Chaz Shalom de dire que les rabbins, imagine, vous allez chez Rav Chaim Kanievski ou Rav Steinman, ça arrive avec 200 millions de dollars. Tu lui fais un chèque de 200 millions de dollars, il ne va pas te sourire plus qu'à moi. Parce que pour lui, il n'a rien à faire de l'argent. Si tu lui donnes une fois, je suis allé chez Rafraim Kanievski, ouais, et je voulais acheter le sefer de son père, du stapler, le Kilot Yaakov. Alors j'ai fait un chèque. Ils me disent, chez nous, on ne reçoit pas de chèque. Rafraim Kanievski, il n'a pas de compte en banque. Il y a tellement de problèmes de ribit, c'est-à-dire, il y a tellement de problèmes d'intérêt. Ouais, parce que tu sais, quand tu es en découvert, tout ça, il rentre pas dans... Non, pas parce qu'il veut du cash, parce qu'il ne veut pas rentrer dans... Il veut pas rentrer dans ces histoires-là, tu entends ? Toujours, Raphaël, il ne veut pas rentrer dans ces embrouilles-là, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de chèque, rien. Alors moi, je n'avais pas de cash, du coup, je n'ai pas pu l'acheter. Et pour te dire que comment ils font attention. Et Raphaël Kanievski, vraiment, 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 tu peux demander à tous les grands riches, parce que tous les grands riches, ils passent par Raphaël Kanievski, il n'y en a pas un... juifs qui passent pas. Les plus riches du monde, ils passent par les grands rabbinim, bien sûr. Ouais, ils ont besoin des grands rabbinim, ils ont besoin de conseils, tout ça. Et tu lui donnes un chèque, il dit ok, c'est là. Alors, grâce à ça, je vais aider des yeshivot, mais il va rien prendre. Sa maison est toujours la même, elle a pas bougé. Son coussin, c'est toujours le même coussin, il a pas jamais changé. C'est-à-dire que l'argent chez les vrais, ouais. Alors, tu vas me dire, ah, pourquoi les rabbinim, des fois, ils viennent faire du kavod, ils vont jusqu'au Mexique. Là, il y a deux rabbinim qui sont allés jusqu'au Mexique pour aller au mariage du 10 plus gros riches du Mexique. C'est normal. C'est à Karatatov. Si ce riche-là, c'est grâce à lui que tous les yeshivotes, il donne des tonnes pour tenir les yeshivotes, c'est normal que quand il marie sa fille, on va lui faire kavod de venir à son mariage. C'est normal. C'est pas parce qu'on fait la lèche. Ouais. C'est pas shoot. Pas shoot, c'est un minimum. Donc le Rav Etzraïm, il dit comme ça, en deux mots. Le Rav Etzraïm, il dit, je voulais pas dire ça, mais c'était en parenthèse. Le Rav Etzraïm, il raconte une histoire. On raconte une fois que le Rav Etzraïm, il avait beaucoup de sfarim, plein, plein, plein de livres. Il adorait les livres. Et une fois, il y a un Rav qui cherchait un livre super rare. Il vient chez le Rav Etzraïm, il lui dit, il vient à 2h du matin comme ça, il tape, il dit, excusez-moi, je cherche ce livre rare, est-ce que vous l'avez ? Ah, le Rav Etzraïm dit, je pense que je l'ai, il va, et il lui ramène le livre. Et quand il lui ramène le livre, le Rav Etzraïm, il pleure. Il dit, excusez-moi, Rav, je sais que je vous ai dérangé et tout, ça vous dérange de me le prêter, vous préférez pas me le prêter et tout. Le Rav Etzraïm dit, non, je pleure pas pour ça. Il dit, pourquoi ? Il dit, je pleure parce que ce livre-là, je l'ai. Mais comment on fait pour avoir un livre ? Il faut l'acheter. Pour l'acheter, il faut de l'argent. Pour l'argent, il faut travailler. Pour travailler, il faut fermer la Gemara. Donc le calcul, il est simple. C'est-à-dire que si maintenant j'ai ce livre, c'est sur le compte de mon étude. Si je n'avais pas acheté ce livre, j'aurais étudié encore plus. Donc chaque livre en fait, que j'ai, c'est sur le compte de ma... Sur le compte de quoi ? De ma Torah. Donc il a dit, on dit d'après ça, Zabshat. C'est-à-dire que les tzadikim, leur argent, elle est plus chère que leur corps, parce que pour avoir cet argent-là, ils ont dû fermer leur Gemara. Donc cet argent, c'est la Gemara en fait. Donc ils peuvent pas se... Même s'ils ont oublié des petites cruches qui valent 2,50 €, mais ils sont obligés d'aller prendre parce que ces 2,50 €, c'est sur le compte de sa Gemara qu'il avait fermé pour les avoir. Donc il ne peut pas lâcher prise. Donc, donc il revient et d'un coup, il se retrouve nez à nez levado. Il se retrouve nez à nez devant le Satan, devant le malheur de Esav. Et voilà qu'il y a la bagarre, comme on l'a raconté la semaine dernière, baston. Pourquoi le malheur de Esav, il vient ? Parce que c'est la mafia. Le malheur, c'est la mafia, c'est la citrachara. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait la citrachara ? Son travail, c'est quoi ? C'est de faire exploser tout. Elle sait que Yaakov, maintenant, il va rentrer en Israël, il va s'installer en Israël, et quand il va s'installer en Israël, il va construire tout le peuple juif, il va amener le tzikoun. Ils veulent pas ça, la mafia. Donc, il va le faire exploser, Yaakov. Donc, maintenant, Yaakov, il combat. À la fin, qu'est-ce qui se passe ? Yaakov, il gagne. Il dit au malheur, je te laisse pas partir tant que tu me dis pas, tant que tu me bénis pas. Qu'est-ce qui lui bénit le malheur ? Écoutez, c'est magnifique ce devoir Torah. Écoute, Ruzi, c'est magnifique. Faites arrêt sur image là, écoutez ça. Le malheur, il arrive maintenant. Il lui dit voilà, tu sais, ton nom sera plus Jacob, sera Israël. Tous les commentaires, ils demandent comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'un type, ok, je t'ai battu. Si tu me bats, ouais, je ne suis pas censé me mettre complètement agenouillé par terre. Je peux dire, ok, tu m'as battu, ouais. Mais un type qui a un rudit, quelqu'un qui a un peu de gava, si tu l'as éclaté dans une bagarre, tu l'as éclaté, il n'est pas obligé de te dire, ouais, je te donne tout mon compte en banque en Suisse. Il te dit, ok, ce que j'ai dans la poche, je te donne, mais ce que j'ai à la maison, je ne te donne pas. Là, on voit que le malheur, il a cédé tout. C'est-à-dire qu'il a dit, maintenant, on est d'accord, maintenant, on écrit sur contrat, noir sur blanc. Le droit d'aînesse, il te revient, les bénédictions, ils te reviennent, on ne te prend plus la tête. C'est ça ce qui s'est passé. Eh bien, il a dit, tu as réussi à gagner Dieu, enfin, et tu as réussi à gagner aussi des gens de Dieu, et tu as réussi aussi à gagner Esam. Il n'a pas encore combattu. Oui, mais comme toute la racine se trouve en haut, s'il a combattu là en haut, là en bas, il est mort. Ok ? Et Sav, il est mort, parce que c'est ça, il a gagné. S'il a gagné en haut, donc il n'y a plus de racines, donc il va tomber, Sav. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Quelques psoukis après, qu'est-ce qu'ils disent ? Dites ça à vos parents. Quelques psoukis après, qu'est-ce qui se passe ? Hachem, il dit, ton nom, c'est Yaakov, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Est-ce qu'il y a une différence entre le Hachem et le malheur ? Il dit, j'ai entendu le Rav Shel, du Khatam Sofer, il dit magnifique. Khatam Sofer, il dit bien sûr qu'il y a une différence. Le Satan, il n'était pas fou. Il n'allait pas tout donner. Il a fait une grosse ruse. Il voulait faire une grosse ruse au peuple juif. C'était quoi? Écoutez bien ça. Il dit que le peuple juif, il s'appelle Israël. Israël, c'est un compliment. Le peuple juif, il est splendide par rapport à lui-même. Ok? Il est splendide parce qu'il est splendide. Israël, c'est une. Quand on dit Israël, ça veut dire que c'est un shvar, c'est une louange à part entière. Le deuxième nom qui s'appelle Yaakov, c'est tuer une tâche, mais à côté des autres peuples, cette tâche-là, elle est petite à cause des grosses tâches. Donc Yaakov, c'est négatif. Ok? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait le Satan de Esav? Il a dit comme ça. Il a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras que Israël. Ça veut dire quoi? Tu n'auras plus le joker maintenant. Quand Hachem, il vient juger quelqu'un, d'abord, il le juge en mode Israël. S'il n'est pas en mode, s'il n'a pas un niveau de Israël, il dit, bon, s'il n'est pas Israël, c'est vrai qu'il n'est pas Israël, mais au moins, il est au moins Yaakov, c'est-à-dire à côté des autres peuples, il est mieux qu'eux. Donc, c'est bon, je le garde. Le Yaakov, c'est le joker du peuple juif. Qu'est-ce qui est venu le malheur de Esav? Il a dit, regarde, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras que Israël. C'est-à-dire quoi? Tu dois, toi, le peuple juif, tu dois toujours être au top. Et si tu n'es pas au top, tu es foutu, frérot. T'as compris? Qu'est-ce qu'il est venu Hachem? Il a rattrapé le tir. Il a dit, non, ton nom, c'est Yaakov. Mais, comme la Gemara dans Brachot a dit, l'osh était Aker Yaakov Mimkomo, pas que le nom de Yaakov, mot à mot, hein, pas que le mot de Yaakov, il sera déraciné. Et là, que le mot Israël sera principal et Yaakov sera accessoire. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a dit, tu as le joker. Si tu n'es pas Israël, tu as le joker. Tu comprends? C'est magnifique, non? Le peuple juif, c'est un vertu de malade, ça veut mettre. C'est puissant. C'est-à-dire que quoi? Que le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait le peuple juif? Il a un joker qui s'appelle Israël. Et il s'appelle Yaakov. Yaakov, Israël. On sait que dans toute la Torah, il y a écrit dans le Rambam que tout ce qui dit, il appelle Avram, son ancien nom, Loké. Il reçoit 39 coups, au verbe élave. Celui qui appelle Sarah, Sarai, avec un Yud, boum, Loké. Mais celui qui appelle Yaakov, au lieu de l'appeler Israël, il l'appelle Yaakov? Non. Parce que la Torah elle-même, elle l'appelle Yaakov. Après qu'on l'appelle Israël, on voit Yaakov. Et si tu remarques, chaque fois que Yaakov il est au top, chaque fois que le peuple juif il est au top, il s'appelle Yaakov, on l'appelle Israël. Et quand Yaakov n'est pas au top, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Il s'appelle Yaakov. Donc là, maintenant, Shmuel, il dit maintenant, regarde, Shmuel, tu vas maintenant, je finis avec ça. Shmuel, maintenant, ta dernière guerre, c'est qui? Tu vas attaquer. Maintenant, tu vas t'arrêter d'attaquer les Pélishtims. Il en reste encore, mais tu t'arrêtes. Tu vas attaquer, mais qui? Amalek. C'est qui Amalek? Amalek, c'est le plus gros voyou que Hachem ne supporte pas. Tout le temps que Amalek est là, la chaise de Hachem, elle n'est pas entière. Qui yad al kes, kes ya. Kes ya. C'est quoi kes ya? Il manque un aleph. Qui c'est? D'accord? Tout le temps, en a qui c'est shalem, hachi machesh moshel Amalek. Ouais? Le trône d'Hachem, il n'est pas entier tant que le nom d'Hachem n'est pas effacé. Tant que le nom d'Amalek n'est pas effacé. Amalek, c'est Gmatria Safek. Safek. Ouais? Ouais? Il y a écrit Zachor Atacha Salecha Amalek, Mitach. Ouais? Baderech, Asher, Betseta Mizraim, Asher Karacha. C'est quoi Karacha Baderech? Il t'a refroidi. Trois pshatim dans Rashi, c'est quoi Karacha? Mais oh, Mlachol Mikre, Mikre, c'est hasard. Et comme on l'a dit l'autre fois, il n'y a pas de hasard chez nous. Mikré, c'est quoi? À l'envers, c'est Rak Mehachem. Le hasard chez les Juifs, c'est Rak Mehachem. Il n'y a pas de hasard chez les Juifs. Amalek, il essaie de mettre le Safek. C'est le premier qui a refroidi le peuple juif. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, tout le monde savait que le peuple juif, ils avaient Dieu. Ils ont vu, ils ont entendu. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Kriyat Yam Souf, les 10 plaies, tout ça. Ils ont entendu ce qui s'est passé. Personne osait. Ouais. Et voilà que quoi? Il y en a un qui a osé, c'est Amalek. Il s'est jeté dans le bain chaud, il a refroidi la bassine, ouais, la baignoire. Ça veut dire quoi, il a refroidi? C'est-à-dire qu'il a dit, regardez, j'ai la possibilité. C'est comme le 17 Tammuz. Par exemple, une des cinq choses qui s'est passée le 17 Tammuz, c'est qu'à Fossemos, il a brûlé la Torah. Oh, il y en a combien tous les jours, on entend une Torah qui a été brûlée à Marseille, à Vanzille, ouais. Un peu de partout, il y a des serre-toi qui brûlent. ça va, ça arrive, quoi. Malheureusement, on est triste, on fait plein de choses. Mais ça arrive, des heures Torah. Qu'est-ce qu'il a brûlé sur Torah ? Alors, Rav Shapira, il avait expliqué, oui, c'est le premier qui a osé brûler sur Torah. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Si tu ne sais pas ce qui se passe, ouais, imagine, je te donne un pétard. Je ne te dis pas, je te donne une dynamite, ok ? Je te dis, vas-y, allume-le. Tu n'oses pas allumer, tu ne sais pas comment il va exploser, quoi. Est-ce qu'il explose ? Il va faire sauter tout le bâtiment ? Ou bien il va exploser, il va faire juste un petit bruit. Tu sais pas, il est gros comme ça. Ouais. Brûler un Sefer Torah, va savoir. Tu brûles, peut-être que tout va exploser dans... Tout le monde va exploser. Lui, il a tenté, il a explosé, il a brûlé. Et les gens, ils ont dit, ah, ben, tu vois, c'est possible de brûler une synagogue. C'est possible de brûler une choule, un Sefer Torah. Donc c'est lui le premier qui a osé. Donc Amalek, c'est lui le premier qui a attaqué. Qu'est-ce qu'il faisait ? Les Bnei Israël, ils avaient encore le nuage qui les protégeait. Et il appelait genre Reuven, Shimon, il sortait. Dès qu'il sortait, un juif, il sortait, il l'abattait comme ça. Donc ils ont fait une guerre. Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre avec ce Amalek-là. Et là, maintenant, Hachem, il dit voilà. Il dit à Shaoul, tu es là et il faut finir avec Amalek. Ça y est, peut-être que toi, tu vas remettre le kissé d'Hachem. Il dit à Amalek, il faut exterminer tout Amalek. Qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez, c'est magnifique. Il dit, regarde, Shaoul, il dit, Shmuel, il dit à Shaoul, il y a un peuple qui s'appelle Amalek. Il faut descendre les hommes, les femmes, les enfants et les bétails. Et le bétail, il faut rien laisser, pas une trace. Ok, c'est compris. Donc Shaoul, il rassemble tous les juifs, ils vont à l'attaque. Ils font la bagarre et pendant la bagarre, et Shaoul, il a fait une bêtise. Il a eu pitié de qui ? Du roi d'Amalek, s'appelait Agag. Il a eu pitié de lui, il a pas tué. Il a tué tout le monde, sauf lui, et il a gardé quelques bétails pour faire des corbanotes, les Shem Shaim pour Hachem. Shmuel, après la guerre, il dit, alors, c'est bien passé, la guerre ? Il dit, ouais, top et tout. Il dit, mais c'est quoi ce bruit-là que j'entends, d'écho, là, le bruit d'animal que j'entends, là, dehors ? Ah, c'est quelques animaux qu'on n'a pas tués. Quoi ? T'as pas tué, mais je t'avais dit de tuer. Qu'est-ce que tu fabriques ? Et quoi ? Et le roi d'Agag, aussi, tu l'as pas tué ? Non, mais il est en prison, tu peux le tuer quand tu veux, c'est bon, c'est pas un problème. J'ai dit, si on voulait approcher des corbanotes, des sacrifices. Alors quoi, tu crois qu'Hachem, il va recevoir des sacrifices de Amalek ? Tu crois que c'est... Je sais pas, je dis, maximum, t'es pas content, on le tue. C'est quoi le problème ? Maintenant, Shmuel, il arrive devant Agag, il prend le roi d'Agag, il dit, regarde, t'as laissé plein de femmes veuves et plein de mères sans leurs enfants. Il a pris une lance, il a abattu dans tout le monde. Ok, il a dit, maintenant, toi, tu vas mourir. Il a dit, Timré el Zecher Amalek. Maintenant, le problème, c'est quoi le problème ? Vous allez me dire, Pseller ! Qu'est-ce qu'il lui a dit, Shmuel ? Écoute, Shmuel, il lui a dit, écoute, là, tu as fait une grosse bêtise. Tu as fait une grosse bêtise. Hachem est super énervé sur toi. Et maintenant, il voudrait, je ne sais pas ce qu'il voudrait. Il a commencé à se retourner, à sortir Shmuel. Shaoul, il l'a attrapé par sa redingote. Et sa redingote, sans faire exprès, s'est déchirée. Shmuel lui a dit, regarde, c'est le Sina. Mon habit s'est déchiré, ça veut dire que ta royauté elle est déchirée, ça y est. T'sais, même toi, avant, jusqu'à maintenant c'était des enfants, ils ne vont plus être droits, mais en toi, ta royauté elle est finie, ça y est. Il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer. À ce moment-là, il a perdu. Vous allez me dire, ouais, mais ça va, qu'est-ce qu'il y a ? Ils l'ont tué, un jour après. Makara, je vous ai expliqué Makara, vidéo caméra cachée. Qu'est-ce qu'il a ? Shaoul, il a mis le roi Agag en prison, ok ? Donc le roi d'Amalek, il l'a mis en prison. La petite jeune femme servante, elle allait lui servir de l'eau. Et ce n'était pas que de l'eau qu'elle lui a servi. Et voilà que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est tombée enceinte. Et voilà que maintenant, Agag, il est mort un jour. Mais il a laissé quoi ? Sa trace ! Que cette femme-là, elle va tomber enceinte. Et Amalek continue. Donc, il n'est pas effacé. Tu entends ? « Kol amirachem alarzarim, sofo litarzer alarachmanim » C'est-à-dire que tous ceux qui ont pitié à des gens qu'il ne faut pas avoir pitié, après, à la fin, ça va se retourner contre lui. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Shaoul, tu vas me dire, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. C'est comme, par exemple, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi et Yaakov. Quand Dina, elle s'est fait violer. OK ? Elle s'est fait violer par Shrem. Shrem, il a violé comme ça. Yaakov, il arrive. Il est énervé, mais il ne fait rien. Il ne réagit pas. Shimon et Lévi, ils arrivent. Ils sont super énervés. Ils ont dit qu'ils n'avalent à Sab et Israël. Ils arrivent. Ils tuent toute la ville de Shrem. Il y avait, imaginez-vous combien de personnes ils ont tuées. Ils ont tué une tonne de gens. Ils ont fait la mina à tout le monde et ils ont fracassé tout le monde. C'est quoi la différence? Pourquoi Shimon et Lévi, ils tuent tout le monde et Yaakov, il ne réagit pas comme ça? La différence, c'est que ça, c'est ça la différence entre les jeunes et les vieux. Et on dit plusieurs fois « Binyan Neharim Stira »« Stira Zekenim Binyan » La construction des jeunes, c'est la destruction. La destruction des vieux, c'est une construction. Les jeunes, ils bougent comme ça, ils veulent toujours rapide, tac, tac. Ouais, on veut gagner de l'argent vite, on veut faire ci, tout vite. Ouais, on veut tout vite. Shimon et Yaakov, il a réfléchi, attends, avant de les buter, 2 secondes, on réfléchit. Il faut réfléchir. C'est quoi? Ouais, imagine Israël maintenant, chaque fois qu'il recevait un scud, ouais, il défonçait directement. Qu'est-ce qui se passerait? Ça va être la guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on s'arrête et on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Si maintenant on va attaquer, est-ce que c'est bien pour nous? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres peuples sur nous? Qu'est-ce qu'elle va dire l'Amérique? Qu'est-ce qu'elle va dire la Russie? On réfléchit. Yaakov dit peut-être que c'est pas bien de faire ce que vous allez faire. On est des juifs, ouais, tout le monde va parler de nous si on fait ça. Shimon et Lévi, ils ont dit on a rien à faire, on défonce tout. Et Hachem, Yaakov, il les a beaucoup dans tous les brachot, dans Vayechi, tout ça. Chaque fois, à la fin de la Torah, on va voir, Zata Bracha, on va reparler de. Yaakov, il parle de ça, il n'est pas content de ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi. Vous avez été trop rapide. Ouais. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut faire que Shaoul, il aurait dû, là, dans ce cas-là, il aurait dû réagir à la seconde. Ouais. C'est-à-dire que des fois, même une journée, nous, on pense que c'est rien. Ouais, ça a l'air. Aujourd'hui, j'ai pas mis les tefillin. Va savoir, c'est quoi aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, moi. Peut-être qu'aujourd'hui, Hachem, il attendait à ta tefila. Il attendait. Chaque jour, on peut pas savoir ce qui se passe. Zay Yesod chez le roi de Shaoul, et c'est la fin de Shaoul. Et là, on va commencer David Améler. Quand David Améler, maintenant, il va commencer à prendre place au temps de Shaoul et après Shaoul. Zay Hachem, la semaine prochaine.